Tant que chacun pensera que c'est à l'autre d'agir plutôt qu'à soi-même, on n'y arrivera pas. Donc il faut recréer de la médiation, on revient toujours à cette idée, il faut recréer du lien, il faut recréer de la coopération, et il faut accepter de se comprendre et de se connaître. Donc il faut recréer de la participation et de la démocratie participative.
Bonjour, Céline Pufardichvili, Look Sharp pour le podcast Le Sens et l'Action, le podcast du C3D. Aujourd'hui, nous recevons, et j'en suis super heureuse, Sylvie Gillet de Loré. Alors, je vais, comme à mon habitude, prendre une minute ou deux pour présenter notre invitée, qui est directrice du développement et responsable du pôle biodiversité et économie, les deux sont importants, vous le verrez, de l'association Auré. On va parler biodiversité, mais peut-être sous un prisme un peu inhabituel et inattendu. Auré, pour rappel, c'est une association qui, depuis 1992, fédère et anime un réseau d'acteurs engagés pour une dynamique environnementale au service des territoires. 200 adhérents issus d'entreprises de toute taille, de tous secteurs, des collectivités locales, des organismes divers, des fédérations, des associations, bureaux d'études, ONG, etc. Auré est membre du Comité national de la biodiversité et, Sylvie, tu es suppléante de la présidente d'Auré, Patricia Savin. Sylvie, tu es également Intuitu Personae, coprésidente du suivi et de réduction des risques dans le groupe Santé-Environnement, entre autres missions. On reparlera de la santé, c'est très important dans ce sujet biodiversité. Tu es une femme engagée, on peut le dire, on en aura la preuve pendant ce podcast, je crois. Tu as également soutenu d'autres associations et plus largement des organisations qui fédèrent les énergies sur les sujets de l'environnement, notamment chez EPE, en tant que responsable du pôle de biodiversité et santé-environnement. Et tu connais bien le monde de l'entreprise. Tu as en effet passé 8 ans chez Michelin en tant que responsable développement durable. Tu es une femme d'action, enfin. Tu as été pour Auré, justement, en immersion totale pour rendre compte de la COP15 biodiversité à Montréal en 2022. Et au cours de tes différentes missions, tu as coordonné et été à l'origine de plusieurs publications. Et c'est pas étonnant car ta seconde vie professionnelle était dans l'édition. Donc tu as publié notamment « Ménager l'eau » ainsi qu'une publication intitulée « Solutions des entreprises pour la biodiversité, double point, changer d'échelle ». Exactement notre propos aujourd'hui. On ne va pas rappeler où en est le sujet de la biodiversité ici. COP après COP, rapport de l'IPBES après l'autre, c'est un constat qui empire. Alors aujourd'hui avec toi, on va parler de la biodiversité sous l'angle de la mobilisation des acteurs économiques pour sa préservation. Et aussi, on va parler certainement à titre personnel. Sylvie, quand on a parlé de ce podcast, tu m'as proposé une approche en 3 points. Et je trouvais que c'était une super bonne idée, donc on va les suivre. Ton premier point ancre cette conversation. Tu vas nous rappeler que pour toi, le sujet de la biodiversité est lié au social. Pour toi, la nécessité d'aborder le sujet peut être plus activée par le volet sociologique que technique. Et en comprenant ton parcours, ça a du sens. Tu as également été, dans ta première vie professionnelle, enseignant-chercheur. Et après ton doctorat à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après des spécialisations en droit, sciences politiques, sociologie. Donc tu vas nous parler tout de suite de ta thèse en sociologie politique, d'ailleurs, tout à fait d'actualité dans le contexte qui nous occupe. Première question, Sylvie. Ouf, enfin, dit-elle. On voit les limites des discours, appels, cris d'alarme, fort justifiés pourtant, des scientifiques. Peux-tu nous donner ton avis sur le rôle des sciences humaines et sociales dans cette transition qui ne démarre pas vraiment ? Comment les sciences sociales peuvent permettre de penser les solutions aux crises environnementales et sociales ? À toi, enfin.
Merci, merci Céline. Merci pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de me livrer à cet exercice à la fois d'introspection personnelle, de retour sur ma formation en sciences humaines et sociales, et également essayer de retrouver du courage pour continuer à bien mobiliser et à bien stimuler les entreprises. Donc, tu l'as dit, j'ai une formation en sciences politiques et j'ai dédié ma thèse en 1994, donc ça date vraiment. C'était 2 ans après le sommet de la Terre et je n'ai jamais entendu parler du sommet de la Terre dans mes études qui pourtant portaient sur les sciences politiques. Et mon sujet de thèse était sur la médiation et j'ai fait à la fois de la sociologie, de l'histoire, de la science politique, pour comprendre pourquoi dans nos sociétés, en France en particulier, on a beaucoup de mal à sortir des rapports de face à face. On est tout le temps polarisé, on est tout le temps clivé. On est droite, gauche, homme, femme, on est pour, on est contre. Alors que dans d'autres sociétés, en particulier des sociétés nordiques, on a su créer des tiers-lieux, des instances de médiation. Alors, n'oubliez pas, je l'ai soutenu en 1994. Je ne pense pas que ce soit ma thèse qui ait fait qu'aujourd'hui, on a des ombudsman et des médiateurs. Mais c'est quand même intéressant de voir pourquoi on a cette difficulté à trouver une voie médiane et à se faire confiance et à sortir du conflit. Donc, pour revenir au rôle que pourraient jouer les sciences sociales, et je vais spoiler ma réponse, qu'elles ne jouent pas, les sciences humaines et sociales ne jouent pas le jeu de s'intéresser à la transition écologique. Et en fait, très peu de sociologues se sont engagés à comprendre les manières dont les sociétés pourraient changer de cap. Pourtant, c'est vraiment des disciplines très proches, les sciences du vivant, les sciences de la conservation et les sciences humaines et sociales, puisqu'on s'intéresse aux interdépendances, aux interactions dans l'ordre social ou dans la nature, entre les individus, les normes, les systèmes culturels et l'économie. Donc, pour reprendre ta question et y répondre, je voudrais quand même noter et vous donner envie de lire deux ouvrages fondamentaux qui, moi, m'ont beaucoup apporté. Le premier, c'est celui de Philippe Descola, « Par-delà nature et culture ». Après sa thèse soutenue avec Lévi-Strauss, « Les lances du crépuscule » sur les Indiens Jivaro, Descola, dans « Par-delà nature et culture », s'intéresse à des sociétés qui n'ont pas coupé ou qui n'ont pas marqué une opposition par rapport à la nature et par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'on nous a suffisamment expliqué que le drame de nos sociétés contemporaines, dû en particulier à la pensée des philosophes des Lumières, c'est d'avoir voulu se rendre maître et possesseur de la nature. Or, Descola montre qu'il y a tout un tas de sociétés où il y a une continuité, où il y a une harmonie. Et Descola a fait école, en particulier a inspiré Baptiste Morisot. Mais attention aussi à ne pas aller trop loin et à ne pas tomber dans une forme d'écologisme ou de messianisme, ou pire, ce qu'ont pu vouloir faire les Chinois quand ils ont pris la présidence de la COP15 à Montréal. Ils ont voulu montrer qu'il pouvait exister une société écologique. Et on sait laquelle est-ce. C'est une société complètement autoritaire. Et l'accord qui est sorti de la COP15 s'intitule « Vivre en harmonie avec la nature ». Moi, je veux juste être sûre que cette harmonie n'est pas politiquement viciée. Donc ça, c'est un premier texte qui permet vraiment d'ouvrir ses chakras, c'est « Par-delà nature et culture ».
D'accord, merci.
Et « Penser les liens entre humains et non-humains ». Et le deuxième texte qui m'a beaucoup marqué et que je vous incite à lire dans l'excellente collection NRF-EC chez Gallimard, c'est Jared Diamond, « Effondrement ». Cet homme est biologiste de formation. Et là aussi, et ça nous manque beaucoup, dans la recherche scientifique, on manque de grands récits, on manque de penseurs qui sortent de leur discipline, qui décloisonnent leur savoir. Et Jared Diamond, de biologiste, il s'est fait historien, il s'est fait géographe, et aujourd'hui il se présente comme un géobiologiste. Et dans Effondrement, il repart sur la compréhension des facteurs qui ont poussé des sociétés à adopter ou plutôt à ne pas vouloir changer de mode de consommation et à disparaître, ni plus ni moins. Je veux dire, l'île de Pâques qui déforeste à tout va et qui, au final, meurt d'un abus de son modèle de société. Il s'intéresse aussi à la société viking. Donc voilà, ça c'est important. C'est important d'avoir en tête ces deux ouvrages fondateurs. Mais surtout, les sciences sociales ne sont pas là pour apporter des solutions. Je veux dire, même la notion de solution est problématique.
On a tendance à vouloir quelque chose de simple.
Oui, et puis quelque chose que tu vas pouvoir transposer, où tu vas pas du tout t'intéresser aux conditions de production de tel ou tel contexte. Et là, conditions de production, ça devrait résonner par rapport à la sociologie. Il y a plusieurs courants en sociologie. Il y a la sociologie critique, donc qui a particulièrement été conçue par Bourdieu, et le structuralisme. Et la sociologie de la critique, c'est plutôt tout ce que l'on a appelé le constructivisme. Mais on en parlera un peu plus loin.
D'accord. Mais merci en tout cas pour ces... en fait, ce que ça éveille en moi, c'est l'évocation de ces deux grands ouvrages, c'est aussi qu'on a besoin de faire se rencontrer les sciences pour comprendre aussi nos moteurs et effectivement peut-être le pourquoi on fait les choses, parce que quand on cherche une solution, c'est pour ne pas avoir à se poser la question du pourquoi. Mais j'ai une petite parenthèse, tu nous as tout de suite spoilé en disant que les sciences humaines n'étaient pas forcément vectrices d'action, en tout cas de prendre la mesure du sujet, mais les sciences dures non plus ne déclenchent pas assez d'action. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'émotion suffisamment forte, je ne sais pas. Mais j'aimerais te demander, en petite parenthèse, si la peur peut être un moteur. Et je voudrais citer ici Claire Nouvian, qui, à travers Bloom, son association pour la préservation des océans, alerte sans aucun détour et invite à l'action politique. Et elle dit que la peur est un moteur d'action parce que l'envie ne fonctionne pas. Pas encore très bien, ou c'est mon interprétation. Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ces sujets ?
Bon, c'est une question redoutable. La peur, est-ce que c'est la peur que l'on ressent ou la peur que l'on suscite ? Là encore, j'ai ouvert ma bibliothèque et je vais vous ramener à vos cours de philosophie. Hobbes, le Léviathan. On comprend que les États ont été créés pour justement permettre aux humains de s'humaniser et de se civiliser. C'est-à-dire qu'il y a, là aussi, il y a un clivage entre ceux qui pensent que les hommes sont bons par nature et ceux, au contraire, comme Hobbes, qui en particulier, ou même comme Norbert Elias, cher à notre président Macron, qui réutilise les références de Norbert Elias sur le processus de civilisation. Donc il y a tout un courant qui montre que l'État a le monopole de la violence physique légitime. C'est donc seul l'État qui peut faire peur et exercer la violence parce qu'en échange, il protège ses concitoyens. Et pour revenir à Claire Nouvian, à Bloom, à ce que l'on a pu désigner comme de l'écoterrorisme, on voit bien qu'à partir du moment où des citoyens ne s'estiment plus protégés, ils vont utiliser les outils et les leviers de l'État, à savoir susciter la peur et appeler l'État à ses responsabilités. Quand Charles Pasqua, là, vous voyez, je vais picorer un peu partout dans le poulailler. Mais quand Pasqua dit qu'il faut terroriser les terroristes, on voit bien les changements sémantiques qui montrent que la peur est au fondement du contrat social, est au fondement du pacte républicain. Et le problème aujourd'hui, c'est que la peur est partout. On est dans un état de guerre permanent. C'est le terrorisme, mais pas seulement. Je veux dire, qu'est-ce qui nous fait peur ? C'est le fait de manquer de marchandises. C'est cette société d'hyperconsommation qui a créé la guerre des marchandises.
La peur du vide.
On est hyper individualiste, ouais. On est narcissique et on se fait la guerre pour garder un accès aux produits. On ne sait pas faire autre chose.
Ok. Je vais aussi picorer dans le poulailler, comme tu dis, j'aime bien cette expression. J'ai envie de rappeler que l'ADEME, à travers de nombreuses études, souligne que les citoyens sont souvent bien plus conscients et prêts à des changements, y compris radicaux, notamment sur leurs habitudes de consommation, de déplacement, etc. Donc, tu vois, cet individualisme, peut-être qu'au nom de faire société, peut-être que ça, on est plus proche que ce qu'on pourrait croire de ce changement. En tout cas, plus proche que ce que peuvent le prétendre certains politiques. Alors, est-ce toujours un sujet de sciences humaines et sociales ? Qu'est-ce que disent les grands sociologues sur la capacité des sciences molles à réveiller le politique si les citoyens, en fait, sont prêts ?
Alors, ta question est très riche et très, très profonde parce que là, tu mets en scène plusieurs types d'acteurs. Tu mets en scène le savant, tu mets en scène le politique, la société, également les forces qui peuvent permettre de faire bouger les lignes. Et le problème, quand même, c'est que tant que chacun pensera que c'est à l'autre d'agir plutôt qu'à soi-même, on n'y arrivera pas. Donc il faut recréer de la médiation, on revient toujours à cette idée, il faut recréer du lien, il faut recréer de la coopération, et il faut accepter de se comprendre et de se connaître. Donc il faut recréer de la participation et de la démocratie participative. Et c'est justement ce que des politistes, pas forcément connu, je pense, de tes auditeurs. Loïc Blondiaux, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Loïc Blondiaux, c'est un politiste et il a beaucoup travaillé sur la notion de démocratie participative. Et en particulier, il s'est beaucoup intéressé à la Convention citoyenne sur le climat. Et il a aussi conseillé le Grand Débat. Tu as également quelqu'un comme Bastien François, qui est aussi un politiste qui a beaucoup travaillé sur la réforme des institutions, sur la VIe République. Et c'est intéressant de voir que c'est important de modifier nos modes de gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nos sociétés ne nous permettent plus d'être loyaux. On n'arrive plus à y croire. On n'arrive plus à être engagé par rapport aux institutions. On n'y croit plus. Et en fait, on n'a que deux possibilités aujourd'hui, c'est de faire défection, de s'abstenir, de rester derrière nos écrans, ou alors de gueuler.
Il n'y a plus d'engagement.
De gueuler, c'est-à-dire de se faire entendre. Et ces trois attitudes, on peut les relier un texte formidable que je vous incite à lire d'un grand penseur, Albert Hirschman. C'est un sociologue et il a écrit un texte qui s'appelle « Exit, Voice and Loyalty ». C'est-à-dire pour lui, dans une société, les consommateurs, tu parlais de l'ADEME. L'ADEME montre que les citoyens sont prêts à acheter des produits bons pour la planète et bons pour la santé. Or, on se rend compte que ce n'est plus le cas, qu'il y a de la défection, que le marché du bio se casse la figure, qu'on préfère acheter moins bon, moins cher. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il va falloir vraiment qu'on se donne les moyens et qu'on arrête de créer des déceptions, de recréer du sens et de refaire société.
Oui, et tu parlais de la confiance aussi. Alors, ma dernière question pour cette première grande partie. Là, tu viens de parler de démocratie participative et de Loïc Blondiaux, et tu as évoqué la Convention citoyenne pour le climat, qui a créé beaucoup d'espoir sur le potentiel de cette démocratie participative. Mais est-ce que plus largement, qu'est-ce qui pourrait être mobilisé en sciences sociales et en politique, qui ne l'a peut-être pas été ou pas suffisamment? Est-ce qu'il y a eu des tests, par exemple hors de France, qui interrogent et qui pourraient faire école auprès de, enfin, notamment sur ces sujets de biodiversité, du vivant en général, de vivre ensemble? Voilà, est-ce qu'il y a des ponts qui peuvent être créés à partir d'initiatives inspirantes, parce que tu parlais du collectif, mais il faut peut-être aller chercher des idées et des choses qui ont marché ailleurs.
Oui, tu as absolument raison. Moi, je voudrais juste rappeler un contexte intellectuel et politique très particulier, c'était celui des années 70. Et il y a des sociologues, comme Michel Crozier, qui a créé le CSO, le Centre de Sociologie des Organisations, et qui a fait des études de terrain et qui a essayé de comprendre comment les employés de bureaux agissaient. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, comme quand Luc Boltanski consacre sa thèse au cadre. Mais pas du tout. En fait, on se rend compte que la société est bloquée par des niveaux intermédiaires. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que les individus sont pris dans des relations de pouvoir et qu'ils essaient chacun d'augmenter leur pouvoir. Et ça, c'est typiquement un sujet sociologique. Comment le pouvoir se distribue, comment il est exercé, comment on essaie d'augmenter son pouvoir. Et la société bloquée, c'est quand même un terme qui va être repris par le premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, dans sa déclaration de politique générale. Il mentionne comment on peut essayer de débloquer la société. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est un test grandeur nature. Étienne Maclouf, un professeur à Paris 2 actuellement, qui est plutôt spécialisé en ressources humaines, mais qui a aussi travaillé avec le muséum, avec Anne-Caroline Prévost. Et Étienne Maclouf a publié un livre assez dense qui s'intitule « Pourquoi les organisations industrielles ne pourront pas sauver la planète ?» Et ça, il a fait cet ouvrage à la suite de multiples enquêtes qu'il a menées auprès de dirigeants, de directeurs du développement durable. Et il montre bien qu'on ne peut pas penser avec des solutions standards faire du bien ou modifier la destruction de la biodiversité. Et ça, c'est très intéressant de voir que, en fait, il y a eu par le passé des sociologues qui ont été intégrés soit au pouvoir public, soit à des grandes entreprises. EDF a longtemps financé des recherches sociologiques, soit il y a quelques recherches qui sont menées ici et là, mais on voit bien que les sciences humaines et sociales ont du mal à percoler parce que les recherches sont très cloisonnées. Que quand on est un mathématicien, on reste mathématicien, on ne fait pas des statistiques pour le vivant. Quand on est géographe, on a du mal à comprendre le fonctionnement des services écosystémiques. Que quand on est écologue, on n'arrive pas à comprendre comment le pouvoir s'exerce. Donc, en fait, heureusement, il y a peut-être un courant disciplinaire qui va être fertile, c'est celui que l'on appelle les humanités environnementales. Et c'est un courant, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui vient d'Australie.
Non, pas encore, mais je pense que là, tu nous mets une telle leçon de sociaux que oui, merci, on prend toutes les notes.
Ouais. Et il y a un livre qui a été fait dans ce courant-là, qui s'appelle « Le vivant et le social, écologie au pluriel ». Alors, je suis un peu gênée parce que parmi les contributeurs, il y a ouvertement des contributeurs anti-système qui ne veulent pas jouer le jeu du système. Mais c'est quand même très intéressant de s'obliger à repenser les rapports entre humains et environnement en essayant d'avoir le moins de jugement de valeur et en travaillant comme des chercheurs doivent travailler, c'est-à-dire qu'on ne construit pas un objet de recherche comme on conçoit une politique publique. Ça, on pourra y revenir. Il ne faut pas se prendre pour des démiurges quand on est un chercheur en sciences humaines et sociales.
En tout cas, très interpellant tout ce que tu nous racontes. Et là, dans la deuxième partie du podcast qu'on va aborder, on va parler du volet de l'entreprise, que tu viens de faire un pont. D'ailleurs, Et merci pour... Ça, c'est marrant, j'avais un prof de socio qui, à Dauphine qui s'appelle Pierre Maclouf, donc il faudrait que tu me dises s'ils sont liés, peut-être pas du tout. Mais on pense le plus souvent les organisations comme des êtres économiques, mais tu viens de rappeler leurs fondamentaux sociétaux avec, et leur fonctionnement, évidemment, relève des sciences sociales. Tu viens de le rappeler avec la recherche de pouvoir de l'individu, mais on peut aussi le dire pour les corporations, hein, recherche de pouvoir, écraser les concurrents, etc., et puis de pays à pays, la souveraineté et tout ça et tout ça. Tu dis bien aussi que les organisations sont plurielles, en perpétuelle construction, et qu'elles passent par des phases d'institutionnalisation aussi. Donc, à part en management et pour la pub, dont l'utilisation quelque part des sciences sociales pour attirer à leur fin, ça, on sait bien que ça relève des sciences sociales, mais en quoi les entreprises aujourd'hui peuvent-elles être perméables aux sciences sociales, y compris à ce nouveau courant dont tu viens de parler, pour évoluer, puisque tu dis que finalement l'entreprise toute seule ne peut pas régler le problème qu'elle a elle-même infligé aux vivants. Est-ce que ce courant qui mutualise quelque part les savoirs et essaye d'avoir une approche holistique peut faire, j'ai envie de dire, prendre conscience à l'entreprise, même si je ne suis pas sûre que l'entreprise ait une conscience, mais ça ne marche pas comme ça. Mais comment est-ce que tu peux... Est-ce qu'il y a des pistes pour que l'entreprise se saisisse de ces courants?
Oui.
Compris l'antisystème, parce que tu viens d'évoquer les antisystèmes. Mmh. Mais si on ne les écoute pas, finalement, est-ce qu'on ne bougera pas forcément non plus?
Alors, je crois que l'entreprise comme telle n'existe pas. Tout comme l'opinion publique n'existe pas, mais à force de parler de l'entreprise, on la fait exister.
On a l'impression que, oui.
Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que toi, moi, nous, on est des êtres d'institution. C'est-à-dire qu'on se définit grâce à notre appartenance à des institutions. On a plusieurs types d'institutions. On a la famille, on a nos études, on a des entreprises dans lesquelles on a pu travailler, on a nos cercles d'amis, nos activités. Mais en même temps, ce serait déjà formidable de se rendre compte que si une organisation existe et si une institution existe, c'est parce que nous, individus, personnes, on veut bien faire exister cette institution.
Oui. On lui donne une réalité.
Voilà. Et en retour, on fait exister l'institution. Donc là, ça nous ouvre des perspectives qui est que tu peux faire évoluer l'institution de l'intérieur en modifiant de quelle manière tu rapportes tes actions à l'institution. Je veux dire, pendant très longtemps, on nous a quand même expliqué que les entreprises étaient là pour faire du profit, d'accord, pour prospérer. Pour effectivement toujours augmenter leurs dividendes. Or, peu à peu, des voix dissonantes sont parvenues à faire le lien entre d'autres missions, d'autres manières de concevoir leur utilité sociale et économique. Et tant qu'il n'y a pas de phénomène de rejet, tant que l'entreprise, l'organisation continue à dire « quand tel dirigeant parle comme ça, ça me va bien, je me reconnais », eh bien, on voit que peu à peu, l'organisation change. Il y a une citation que j'adore, que l'on peut retrouver dans un film et d'abord dans un livre de Lampedusa, Le Guépard, qui dit « Pour que rien ne change, il faut que tout change ». Et ça, c'est vraiment important aussi de noter que le capitalisme, le gros mot, hein, le capitalisme n'a pas arrêté de se nourrir de sa propre critique. Et ça, c'est un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski, qui a été pour moi très important, qui a co-dirigé ma thèse. Luc Boltanski a bien montré dans le nouvel esprit du capitalisme, en travaillant justement sur des manuels de management des années 70, comment le capitalisme se fortifie en intégrant sa propre critique. Et franchement, le développement durable, c'est ni plus ni moins que le capitalisme qui digère la critique qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est un gros biais qui est comment faire pour que l'économie ne s'approprie pas, ne dévoie pas les analyses qui sont faites d'elles-mêmes. Ce serait quand même assez terrible de se rendre compte, par exemple, qu'un auteur comme Timothée Parik, qui explique très très bien ce que peut être une croissance stationnaire ou, encore un plus gros mot, la décroissance, si ses propres thèses étaient réappropriées par le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui.
C'est peut-être ce qui est en train de se passer quand effectivement on accepte à la table capitaliste des auteurs comme ça et des penseurs critiques. Tu as entièrement raison, je pense à Greta Thunberg quand elle est invitée sur Davos ou ces plateformes-là qui sont là pour digérer et mettre sous leur aile comme ça des contestataires et finalement... faire comme si, oui, c'est bien compris, on y est. Donc voilà.
Oui, mais justement, tu parles de Davos. Il faut utiliser les codes et les armes de l'organisation que l'on veut faire évoluer. Et quand Davos, le Forum économique mondial, procède à son analyse de risque chaque année, on voit là, en 2024, que l'analyse de ces parties prenantes a montré qu'à long terme, toutes les parties prenantes considéraient l'érosion de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes comme l'un des risques majeurs. Donc ce n'est pas une ONG qui dit ça.
Et déjà, donc c'est un progrès. Effectivement, de reconnaître qu'on est un colosse au pied d'argile, c'est un progrès. Ouais. Alors concrètement, là, tu viens de parler finalement du rouage interne et du pouvoir de contestation qu'on pouvait, ou d'évolution, parce que ce n'est pas forcément de la contestation, ça peut être de l'évolution qu'on pouvait avoir à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'on considère traditionnellement que pour faire bouger l'entreprise, il y a le marché, hein, et puis il y a le régulateur. Mais on voit aussi qu'il y a celui qui recherche peut-être aussi le pouvoir en interne pour faire changer l'entreprise. On parle beaucoup des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. Est-ce que tu penses que c'est une huile dans les rouages, j'ai envie de dire, pour filer ma métaphore, suffisante pour faire bouger l'entreprise, ou est-ce que ça va être encore un ingrédient du processus de digestion ?
C'est intéressant, toutes ces métaphores que l'on utilise. Moi, je crois vraiment en la force des nouveaux récits. Je crois beaucoup en la force d'une société désirable. Et on voit bien que le malentendu pour la biodiversité, pour régler l'érosion de la biodiversité, est là. C'est qu'on a mis en place des instruments dédiés, on a mis en place des aires protégées, des stratégies, des réglementations, des séquences, mais on a beaucoup de mal à comprendre comment agir sur les causes véritables et profondes de l'érosion de la biodiversité. On ne parvient pas à s'attaquer et à parler des modes de production agricoles. On ne parvient pas à dire ce qu'induit la surconsommation, ce qu'induit le commerce mondial et les traités de libre-échange, ce que sont les subventions néfastes pour l'environnement. Tout ça, on ne veut pas le traiter, et quand on essaie de le traiter, on nous dit que c'est beaucoup trop stratosphérique. Mais pourtant, on voit bien qu'il faut qu'existe des changements transformateurs. Et pour répondre à ta question, l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, dans son évaluation mondiale, a vraiment éclairci la compréhension des facteurs de pression directe et indirecte, et a parlé justement de changements transformateurs. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est typiquement une notion emprunté à la sociologie, mais c'est aussi une notion qui risque d'être dévoyée. Mais moi, je m'attache beaucoup à la force des mots, à la force des discours qui font parfois advenir ce qu'ils désignent. Oui, tout à fait. Et donc, pour revenir à ta question des nouveaux récits, je trouve très intéressant de s'obliger pas à être béat, ni naïf, ni gnangnan, mais en tous les cas, à essayer d'imaginer un récit de société qui soit positif et contributif, comme vous l'avez très bien montré dans votre ouvrage « Fabrice Bonifay et toi ». Voilà, il faut fabriquer des nouveaux récits et tout un tas d'outils existent. Faut arrêter de se faire peur. Parce qu'à force de se faire peur, le loup va vraiment nous dévorer.
Et on l'aura fait advenir puisqu'on aura accepté sa présence avec nous et peut-être en nous-mêmes. L'histoire du cerveau qui ferait qu'on s'autodétruit est peut-être un frein aussi. Alors, entreprise et biodiversité ne font pas forcément bon ménage. Je pense que toi, en particulier, tu, pour avoir été dans les coulisses de plein d'instances qui regroupent les entreprises et qui les invitent à s'engager effectivement pour la biodiversité. Donc ça, c'était quand même un peu... Enfin, c'est un peu difficile à imaginer, mais parce que tu as quand même vu que c'était compliqué, on peut le dire pudiquement, parce qu'on constate aussi que les entreprises, souvent, voient mal leur propre lien avec le sujet de la biodiversité. Et en préparant ce podcast, on en a parlé, le climat, c'est pas qu'elles voient leur lien, c'est qu'on leur a mis le lien sous le nez tellement qu'elles ont fini par dire « Ok, on s'en occupe », et en plus, c'est facile à calculer. La biodiversité, c'est beaucoup plus difficile. Il y a encore plein d'entreprises, notamment servicielles, qui ne voient pas le rapport. Or, évidemment, tout le monde a un rapport avec la biodiversité. Est-ce que... finalement, c'est tant qu'on n'aura pas compris quel est son lien entre son activité amont-aval, conduite à travers, via ou parce qu'on aura fait telle ou telle activité, on ne pourra pas s'y attaquer frontalement. Est-ce que c'est une excuse ? On ne voit pas et on ne veut pas voir.
Moi, quand même, je constate un vrai basculement. Il faut... Se forcer à ne pas être paresseux intellectuellement. Il faut se forcer à relire ce que les entreprises écrivaient sur elles-mêmes dans les années 70. Et on voit que vraiment beaucoup de chemin a été parcouru et que cette notion de biodiversité que chez Auré, donc le réseau multi-acteurs qui m'emploie et auquel je m'emploie à rendre le plus de services à nos adhérents, a créé un groupe de travail biodiversité et économie il y a plus de 15 ans, en réunissant des scientifiques et quelques représentants d'entreprises, et en particulier les usuels suspects. Les usuels suspects, c'était qui ? C'était les cosmétiques, les énergéticiens, le secteur du luxe, les carriers. Voilà. Parce qu'eux dépendaient vraiment du bon fonctionnement des écosystèmes.
Et de l'alimentation aussi.
Alors, l'alimentation, ils sont restés dans leur coin. Et ils ont encore tendance à beaucoup rester dans leur coin, on en parlera après. On est même obligé de faire des initiatives dédiées pour eux. La notion d'économie régénérative, c'est typiquement... quelque chose qui vient chercher l'amont et l'aval de l'agroalimentaire. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut accepter de voir que les discours ont évolué. Je veux dire, relisez le rapport Meadows, relisez les conclusions du sommet de la Terre. On ne parle plus de la même façon, on n'a plus la même conscience. Quand... on crée un indicateur d'interdépendance des entreprises à la biodiversité, toujours au sein d'Auré. On commence à parler de vivant, on commence à parler de dépendance. Aujourd'hui, dans les standards, on arrive à parler de DIRO, c'est-à-dire on parle de dépendance, d'impact direct et indirect, de risque et d'opportunité. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que on est maintenant dans des standards, dans un foisonnement d'initiatives, et ça, c'est venu grâce à l'apport des scientifiques, grâce au fait que la biodiversité a pu être mise dans la bouche de chefs d'État et de PDG. N'oubliez pas le discours d'Emmanuel Macron au Congrès mondial de la nature. Oublions pas le lancement de Act for Nature ou des PDG. Commencent à comprendre quels sont leurs impacts directs et indirects. Et en fait, on voit que la biodiversité a quitté le cercle des experts de la conservation, qui avaient bien envie d'ailleurs de garder ce sujet pour eux-mêmes. La finance s'en occupe. Et on voit que d'un point de vue sectoriel, de plus en plus d'initiatives sont prises pour comprendre comment un sujet qui est diffus, qui est local, qui est pluriel. Tu disais, le climat, ça se mesure, c'est facile. Et surtout, il y a un marché pour le climat. Or, la biodiversité, ça n'est pas le cas. Et il faudrait mieux qu'il n'y ait pas de marché. Parce que s'il y a un marché, ça va être compliqué. On voit ça avec les crédits biodiversité. Donc, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que on ne croit que ce que l'on voit et justement la biodiversité, ça peut se voir beaucoup plus facilement que le climat. On reviendra là-dessus.
On y reviendra, en effet. On va aborder la troisième partie de ce podcast. Les deux premières parties étaient bien riches et ça nous a teasé sur le troisième volet parce qu'on a un peu parlé du manque de dialogue entre les grands courants scientifiques. On a parlé de la difficulté des entreprises à se saisir du sujet, mais tu parais assez optimiste sur ce point, finalement, et je t'en remercie, parce qu'on a besoin d'optimisme là-dessus. Et on peut parler aussi des citoyens, qui sont sans doute un peu paumés aussi. Alors, le troisième volet de cet entretien, c'est celui de la force du collectif. Toi, tu prônes le dialogue, la co-construction. Je pense que ça se voit au travers de tes engagements. Tu invites à construire des dialogues multi-acteurs pour que les sujets économie et biodiversité RSE puissent se concrétiser. En entreprise, avec les institutionnels, les scientifiques, le grand public, quelles sont pour toi les conditions à réunir pour que ce dialogue prenne et n'accouche pas d'une souris et par exemple, je pense que tu es très, très, très impliquée dans la volonté de faire des coalitions réussies avec les différentes instances que tu as déjà citées, comme Business for Nature, les réseaux comme l'ORE, bien sûr, le C3D, l'ORS, les entreprises engagées pour la nature aussi, les plateformes entreprises et biodiversité, cette plateforme qui sera lancée mi-mai. Donc, est-ce que ça doit passer par des instances comme ça ? Est-ce que ça doit le plus grand public doit s'en emparer, des clés pour que ça marche, c'est quoi ?
Alors, je suis pas des murs, je ne peux pas te dire les conditions de succès, parce que sinon j'aurais beaucoup, beaucoup de succès. Mais en tous les cas, ce que je crois, c'est qu'on a ouvert les portes, on a ouvert les fenêtres, la transparence a vraiment eu comme effet que nous sommes aujourd'hui observés en tant qu'acteurs économiques et aussi les choses ne peuvent plus se passer en douce. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de rendre des comptes. Et les déclarations, les engagements que des dirigeants vont prendre d'un côté, vont leur être opposés de l'autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, là encore, je vais faire appel à deux sociologues, dont un que vous connaissez très bien, c'est Bruno Latour, qui a d'abord été historien des sciences et que moi, j'ai eu la chance de lire, de rencontrer dans les années 80, avec Michel Calon et Pierre Lascoum, un autre politiste. Ils avaient noté l'importance de faire exister des forums hybrides. Voilà. C'est des lieux où on ne va pas créer des règlements, où on ne va pas formaliser les comportements. C'est des endroits comme des tiers-lieux. Et je crois vraiment que le C3D, l'ORS, EPE, ORE, il y a ces moments, je vais employer un autre terme, il y a un peu ces moments de où les positions sont suspendues, où les égos sont un peu calmés. Et c'est un peu des moments d'agapé, au sens où on suspend les règles du jeu habituel. on se fait confiance, on s'écoute, on s'entend et surtout on se dit que nos conditions de vie sur Terre sont en jeu. Et c'est pas être un prophète que de dire ça, mais on souffre sans cesse de zoonoses, de catastrophes climatiques, de ruptures d'approvisionnement, de burn-out, à défaut d'ennui et de découragement. Et justement, je trouve que c'est très important de créer les conditions d'un dialogue fertile. Et ça peut être aussi anecdotique qu'un fil WhatsApp créé à l'occasion de la préparation de la COP15 à Montréal, où je me dis un matin, tiens, si tous les gens que je connaissais, je les réunissais dans un même canal, pour au moins que pendant cette COP à Montréal, on puisse plus facilement se retrouver, se réunir, savoir où on est, faire une bonne bouffe le soir.
C'est de l'informel formel, c'est passionnant cette histoire de WhatsApp que tu m'as racontée.
Et d'un seul coup, ce fil WhatsApp est devenu un lieu qui a servi la négociation. C'est-à-dire que les négociateurs européens se sont retrouvés à nous appeler sur ce fil WhatsApp pour qu'on rentre en salle de négociation et que Eva Zabé, la directrice exécutive de Business for Nature, prennent la parole et disent que les entreprises sont prêtes à avoir des réglementations claires, cohérentes et à rendre compte de leurs impacts, de leurs risques et de leurs dépendances et qu'on veut des règles du jeu équitables qui créent un level playing field. Et en fait, aujourd'hui, ce fil WhatsApp existe toujours. Alors, je l'ai dénommé, c'est plus avant la COP15, pendant la COP15, maintenant c'est avant la COP16. Et c'est vraiment un fil WhatsApp très stimulant. J'ai parlé de Business for Nature, qui est une coalition qui réunit formellement 85 partenaires qui ont à voir avec l'économie et la biodiversité. Mais c'est aussi un lieu où on complote positivement. On complote pour faire en sorte que les pionniers, les progressistes, ne soient pas lésés ou ne soient pas rattrapés par ceux qui sont partisans de l'inertie. Parce que plus un sujet est gros à traiter, plus ceux qui vont s'en emparer payent un coût d'entrée très
absolument
fort. Ouais. Et donc, on préfère toujours être passager clandestin. Et là, en fait, dans ces lieux, on voit qui ne fait pas le boulot, qui essaie de ralentir. Et ils sont obligés de parler, ces gens-là. Ils sont obligés de dire pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre que la biodiversité, c'est vraiment l'affaire de tous. Et justement, là, je vais encore plus loin. Après avoir participé à la co-création de Act for Nature, dont vous avez été plusieurs à faire partie, à créer une initiative d'engagement avec l'OFB Entreprises Engagées pour la Nature, je me suis dit aussi qu'il manquait un lieu où tous les porteurs d'initiatives puissent se retrouver et transmettre leur démarche et montrer que c'est pas parce que la biodiversité c'est complexe et il faut l'accepter que c'est complexe, mais il faut aussi faire en sorte que tout le monde prenne le train de la biodiversité. Je veux dire, on ne peut plus rater le train. Je veux dire, il faut y aller, faut monter à bord, faut comprendre ses impacts, faut commencer petit. Regardez comment on gère écologiquement son site industriel, comment on nourrit ses salariés à la cantine, comment on travaille avec sa chaîne d'approvisionnement. Voilà. Et tout ça, il faut que ce soit fondé scientifiquement sur le bon état des écosystèmes. Et là, il y a des gens formidables. Il y a des scientifiques qui sont vraiment très éclairants. Tu en as interrogé plusieurs dans ton podcast. Et c'est vraiment intéressant de voir que la création de liens interpersonnels, en recréant du lien, en nourrissant des liens, on fait du bien aux interdépendances qui nous lient à l'environnement.
Non, c'est vraiment passionnant parce que là, tu parles du lien personnel et micro, quelque part, qui va avoir un vrai effet de rouage et d'entraînement sur le macro. Tu as quand même rappelé, et je te remercie, le souhait des entreprises d'être plus encadrées, mais aussi de façon cohérente, parce qu'on voit que les règles du jeu ne le sont pas toujours, et ça peut perturber quand même les engagements des uns ou des autres. Tu as rappelé aussi, et je trouve ça fondamental, que c'est important de travailler individuellement pour plus grand que soi, en oubliant l'ego, et ça peut aussi répondre à notre recherche de sens individuel. Alors, tu viens de rappeler, créer des alliances, penser global, faire confiance, travailler sur l'interpersonnel, écouter, faire parler, voilà, accepter la complexité, ça c'est vraiment fondamental. Alors, une des dernières questions de cette troisième partie, mais que je trouvais intéressante parce qu'elle touche au personnel. Tu rappelles l'importance de se sentir légitime, et tu l'as évoqué, pour agir dans ces sphères économiques en tant que femme, en tant que féministe, en tant que jeune, puis moins jeune. Tu as dit, quand on a préparé, tu as même dit en tant que divorcée, en tant que provinciale, en tant qu'origine modeste, mais tenace, créative, résiliente. Tu repars dans les sciences sociales, ça, c'est touchant, mais en même temps, peut-être que c'est ça qu'il faut aussi, c'est rappeler ces failles ou les failles qu'on pense avoir, parce que ça n'en est peut-être pas forcément. Mais tu rappelles que concrètement, pour individuellement, c'est compliqué, parce que tu n'es pas scientifique au sens science dure aussi. Et tu m'as raconté, quand on a préparé, que ça n'a pas été évident quand tu as eu toutes ces discussions avec des grands qui te... Des grands, je mets des guillemets, hein, mais on ne les voit pas. Qui te renvoie dans tes bases au regard de ces stéréotypes ou constructions sociales qu'il plaque sur toi ou peut-être que toi-même t'as intégré.
Oui, alors ça pourrait faire l'objet d'un podcast.
Et on va se faire gronder.
Ouais. juste donner quelques clés. Je crois vraiment qu'il faut retourner contre la société les armes de la sociologie. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à rester dans son milieu d'appartenance, dans ses codes. Alors on parle aujourd'hui des transclasses, et c'est pas sans douleur, hein, de changer de classe, de changer de milieu. Moi, je crois vraiment que ce qui peut vraiment beaucoup aider, en particulier les jeunes filles en particulier, qui sont souvent affublées de ce que l'on appelle le sentiment d'imposture, c'est de lire, de se documenter, de travailler, de construire leur objet de recherche et de se questionner, de revenir aux sources originelles. Et une fois qu'on s'est créé une super bonne bibliothèque de scientifiques, eh bien ça donne beaucoup de force et beaucoup de courage, surtout si on a des alliés sympathiques comme toi, comme d'autres coalitions. Eh bien ça donne le courage d'aller affronter les grands ou les gros. Je pense que je ne pourrai jamais oublier mes échanges avec Patrick Pouyanné, où dans un moment, ce moment un peu flou, privé, prof, je suis allée l'interpeller sur, gentiment, hein, je veux dire, il faut toujours rester cordial.
Et tu l'es toujours, je pense, oui.
je suis allée lui demander pourquoi son groupe continuer à exploiter, explorer dans des aires strictement protégées de catégories 1A, 1B, 2, 3 de l'UICN. Et en fait, je pense que ce type de personne est tellement habitué soit à ce que son entourage dise rien, ne lui dise rien, ou alors que quand on lui dit quelque chose, ça vient de l'extérieur et c'est costaud. Mais là, il voit une femme qu'il a l'habitude parfois de croiser, il ne sait pas très bien qui je suis. Et là, je viens le chercher à un niveau d'expert. Et donc, il est obligé de me répondre à un niveau d'expert. Et c'est ça qu'il faut vraiment nourrir, c'est-à-dire trouver du courage, respecter quelques codes, mais surtout susciter la discussion, susciter l'échange. Parce que tout nous pousse à rester dans nos silos, dans nos réseaux, dans ce que les algorithmes nous proposent. Mais moi, j'ai été très contente aussi de pouvoir faire rencontrer un très grand groupe de fabricants de phytosanitaires, qui commence par un B, avec le sénateur Joël Labbé, qui est à l'origine de la loi sur le zéro phyto. Et c'est important que les deux côtés puissent comprendre d'où chacun parle et d'où chacun a un point de vue particulier et sa position s'explique, enfin, par ses dispositions. Et ça, c'est vraiment important de savoir que je crois vraiment que le grand problème aujourd'hui de nos sociétés, c'est qu'on ne trouve pas assez le temps de lire, de se documenter, et on réagit, on surréagit de manière épidermique, et on loupe l'échange, on loupe le travail de fond, et quand on a travaillé sur le fond, on peut trouver un espace d'échange et de neutralité qui peut forcément nous faire progresser et surtout nous donner une vision d'ensemble.
Oui, et puis aborder ce dialogue qui est si difficile parce qu'on nous demande toujours de la binarité, pour ou contre, comme tu le disais au début. Donc, saura-t-on ce que Patrick Pouyanné t'a répondu en un mot sur le pourquoi ?
Écoute, je me suis rendu compte que c'est un homme qui bosse beaucoup, qui passe tout son temps à bosser qui est allé rechercher dans l'historique de ses mails le pourquoi dans ses engagements Act for Nature, il avait préféré parler de ne pas aller dans des réserves UNESCO qui sont en tout petit nombre plutôt que dans des aires protégées. Et en fait, comme disent les industriels, il a pris le point. Et ça, c'est très bien.
Ouais, et en fait, c'est peut-être aussi que c'est des sujets tellement techniques qu'en interne, ça a été pris comme décision. Et quand on lui demande prosaïquement pourquoi ça et ça, en fait, il ne sait pas très bien te répondre directement.
Bah, il finit par dire « on est prêt ».
Ok. Alors, j'espère que tu auras eu un gros effet là-dessus. Je vais faire une dernière grosse question sur ce volet du collectif, parce que tu viens de rappeler quand même que pour faire avancer le Schulmblick, il faut être en capacité intellectuelle, mais aussi, quelque part, trouver la force en soi de faire avancer les choses. Comment ça se passe pour toi, personnellement, quand tu doutes sur tes capacités ou sur nos capacités individuelles et collectives à surmonter tout ça? Comment ne pas se laisser abattre par une mauvaise nouvelle sur une mauvaise nouvelle, par le cynisme, par le défaitisme? Comment est-ce que ça paraît trop immense? Tu as évoqué tout à l'heure le fait que l'institution entreprise peut repousser des choses en disant « mais ça c'est trop large, c'est trop gros, c'est trop… » Mais où on n'a pas les capacités intellectuelles à comprendre le sujet de manière holistique. Comment est-ce que tu prends ça de manière positive? Parce que tu es une femme extrêmement positive au sens… tu reprends les armes et t'y vas, mais avec détermination et espoir et énergie, quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est lié à tes projets? Est-ce que c'est lié à des projets très concrets où tu te dis « maintenant, je vais m'occuper ». Je pense que tu es armée intellectuellement et tu as fait ce travail de lire, etc. Mais c'est quoi ta botte secrète pour continuer maintenant?
Waouh.
Non, mais tu as une réponse, que tu m'en as parlé.
Ouais, le doute est un moteur aussi. Mais il y a doute et doute, c'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi-même et avec son entourage. Moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est deux choses. C'est côtoyer des jeunes et les aider. les aider, pas du tout parce que je pense être plus forte qu'eux, mais en tous les cas, leur redonner de la confiance et être à l'écoute de cette éco-anxiété, de cette souffrance, et de les encourager à se libérer d'un certain nombre de mirages qu'on leur a légués, hein, à inventer d'autres choses. Et donc ça, côtoyer les jeunes, pour moi, c'est vraiment ce qui me ressource et ce qui me régénère. L'autre chose, c'est la fiction. C'est la fiction, c'est la poésie, c'est le roman. Et je me rappelle d'un très beau documentaire consacré à Rachel Carlson, qui a écrit « Printemps silencieux » en 1962. Et elle disait « Il faut unir la science et la poésie pour atteindre le subconscient et changer ces idées fausses qui nous mènent au bord du gouffre. » Et ça, c'est très, très, très important de savoir qu'il... Tout comme on a besoin de régénérer notre économie, et il y a plein d'initiatives intéressantes qui sont en train de se produire autour d'acteurs que l'on connaît, Regène Écosystème, Lumia, C3D, Emmanuel Delannoy, Isabelle Delannoy, qui n'a rien à voir avec Emmanuel Delannoy. Voilà. Il faut se mettre en situation d'être nature positive. Donc voilà, moi, mes projets, ce qui me fait du bien, c'est effectivement de rester curieuse et d'être ouverte à tout et à tous. Et voilà.
En tout cas, merci de partager tout ça, parce que je pense que ça nous régénère aussi de puiser dans ta boîte à outils, dans ton... ta bibliothèque, je dirais aussi. Alors, deux questions traditionnelles pour clore ce podcast. Tu nous as quand même pas mal spoilé de choses, mais la première question, c'est comment métaphoriquement ou au pied de la lettre changer le monde depuis sa chaise de bureau? Et la seconde, et tu as déjà énormément partagé, mais si tu en as une de plus, on est preneur. Peux-tu partager avec nous une œuvre qui t'a marqué, transporté, touché et qui encore aujourd'hui te parle et t'inspire dans ton parcours?
Merci Céline de me donner cette occasion. Alors, surtout, ne pas rester sur une chaise de bureau. Hein. Vraiment, il faut sortir. Il faut sortir dans la rue, il faut aller dans les cafés, il faut aller au contact. Et surtout, il faut aller se balader là où il y a encore des écosystèmes qui fonctionnent et les observer. Parce que ce qui est formidable avec la biodiversité, plus que pour le climat, c'est qu'elle se régénère beaucoup plus vite. C'est-à-dire que j'ai une interlocutrice parmi les adhérents dorés qui me disait récemment qu'elle avait convaincu son PDG de prendre des engagements sur la biodiversité plutôt que sur le climat, parce que durant la durée de son mandat, il pourrait voir les effets positifs et bénéfiques qu'il aura eu sur la biodiversité. Et c'est une très grande fédération. Donc ça, c'est puissant de se dire que quand on fout la paix à la nature, elle se remet à fonctionner, à se transformer, à s'adapter, à être résiliente. Donc voilà, sortir le plus possible, marcher, observer les arbres, les herbes, les insectes, les oiseaux, les animaux, et se déconnecter de nos machines. Et puis, je voudrais faire un pas de côté pour vous donner une ultime référence. Et là, c'est de la fiction. Mm-hmm. C'est « Le maître et Marguerite » de Mikhaïl Bulgakov, qui est un auteur russe, qui, dans les années 30, a commencé un manuscrit qu'il a terminé en 1940. Et c'est un manuscrit dingue, de 500 pages, qui est en trois récits. Et dans ce récit, je vous incite vraiment à lire dans la dernière traduction, on est en pleine période du stalinisme. et le diable vient rendre visite à un journaliste. Et ensuite, on va rencontrer Ponce Pilate qui se demande s'il a bien fait de juger Jésus. Et on va aboutir sur une histoire d'amour entre le maître et Marguerite. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce texte a été censuré. Pendant plein d'années. Et quand il paraît en 66 en URSS, il est tronqué, il est caviardé. Et donc, sous le manteau, des Russes vont écrire à la main les passages qui ont été censurés. Et chacun se passera dans les cuisines moscovites et ailleurs les passages qui ont été censurés. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, c'est que la critique, la satire, la poésie peut vraiment sortir victorieuse de tous les immobilismes et qu'il ne faut jamais perdre confiance et qu'il faut toujours continuer à s'indigner, comme disait ce vieux Stéphane Hessel.
Passionnant. Moi, je me suis laissée complètement transporter. J'espère que nos auditeurs aussi. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir invités à visiter ta bibliothèque et de nous avoir parlé à cœur ouvert aujourd'hui. Merci, Sylvie.
Merci beaucoup, Céline. À bientôt.
Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.